Il est 1h20, nous passons à notre rubrique d'autres regards sur la crise et nous recevons donc aujourd'hui l'écrivain, philosophe, poète aussi, Annie Lebrun. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être venu dans ce studio. Je vous propose pour commencer peut-être d'explorer les symptômes de cette crise à partir d'un domaine sur lequel vous êtes en tant qu'écrivain et poète particulièrement sensible, c'est celui du langage, de son évolution, notamment des mots et aussi de la grammaire, un langage qui se développe, dites-vous, en continuel déni de réalité. Est-ce qu'on peut prendre quelques exemples, peut-être pour bien comprendre ce que vous dites quand vous parlez d'évolution du langage et les problèmes que ça peut poser?
Oui, ça fait longtemps que ça a commencé, mais ça prend des proportions maintenant exorbitantes. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on s'en rend de moins en moins compte. Alors quand je dis que ça a fait un certain temps que ça a commencé avec l'intrusion du langage technique à peu près dans tous les domaines. Mais par exemple, on a parlé, c'est ainsi qu'on a parlé de la bombe propre, des frappes chirurgicales. Et puis maintenant, on parle de la croissance zéro, ou même on a entendu ces derniers temps parler de croissance négative. Alors là, on voit très bien qu'elle a cette fonction du langage. C'est une fonction, c'est un langage qui interdit la contradiction. Ce sont des formules ritualisées qui sont assez bien frappées pour être reprises par tout le monde et de telle sorte qu'on ne peut plus les contester.
Pourquoi ? Parce qu'elles contiennent à la fois une chose et son contraire, en fait.
Parce qu'elles contiennent une chose et son contraire. Et du coup, il y a une sorte de sidération et ça a une fonction hypnotique, une fonction anesthésiante qui va permettre de tout avaler. Et avec la crise, on voit comment ça se passe. C'est continuellement des discours qui ont cette fonction hypnotisante.
Donc ça, c'est un symptôme pour vous de quoi ? Du fait qu'il n'y a plus de réaction, que nous sommes pris dans un système sur lequel on n'a plus de prise, précisément, parce qu'on n'a plus le langage pour y accéder ?
On n'a plus de prise, pas seulement parce qu'on n'a plus le langage pour y accéder, le langage étant à la fois le reflet et l'instrument de cette sorte d'hypnotisation générale, mais aussi c'est pour ne pas voir. Quand même, on commence à voir avec les dimensions que prend la crise financière, pour ne surtout pas voir que tout se tient. Parce que cette crise financière, dans le fond, est l'équivalent dans le monde économique de ce qu'a été la vache folle dans le monde alimentaire, de ce qu'a été l'affaire du sang contaminé.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire des mécanismes qui commencent, des systèmes qui commencent à fonctionner tout seuls, enfin, qui donnent l'impression de fonctionner tout seuls. Et à un moment, on n'a plus, tout se passe comme si on n'avait plus les moyens d'arrêter cette machine. Parce que justement, on perd les moyens du rapport des choses avec la façon de les exprimer et qu'on perd aussi la relation entre la cause et l'effet. Et ça, c'est très grave. Parce qu'on ne s'aperçoit plus de ce qu'on fait.
Alors évidemment, perdre la relation entre la cause et l'effet, ça paraît assez dramatique comme ça, 12h44, ça veut dire que la pensée elle-même peut-être est atteinte, la capacité à penser, les conditions de possibilité de penser, y compris cette crise, seraient atteintes selon vous?
Oui, et d'ailleurs on voit très bien comment il n'y a pas de... comment il y a très peu de gens qui, par exemple les intellectuels, qui s'opposent à tout ça. Même s'il y a des critiques, il y a un grand nombre de critiques puisque vous avez invité...
Oui, on essaye effectivement cette série justement
voilà,
de donner la parole.
Mais très souvent ces critiques sont des critiques spécialisées. C'est des critiques qui abordent un seul point, qui ne donne qu'un seul aspect du paysage, alors que j'ai l'impression que tout se tient. Et c'est ça qu'on ne veut pas voir. Et c'est ça qu'il faut dissimuler.
Tout se tient, c'est-à-dire le tout, qu'est-ce que vous mettez dedans ?
Le tout, c'est qu'il y a une sorte d'équivalence dans le désastre. C'est-à-dire que à la remodélisation des villes, à la, en, en centre commercial généralisé correspond le bodybuilding, correspond la chirurgie esthétique et au crabe reconstitué, à cette nourriture industrielle qu'on débite correspond aussi la sorte de nourriture culturelle là, qu'on essaye de faire avaler, de telle sorte que toutes les conditions sont en place pour qu'on avale tout. Aussi bien la mauvaise nourriture que l'absence de pensée. Voilà.
Alors évidemment, bon, la question qui se pose, c'est de savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pilote cette opération de faire tout avaler? Et d'autre part, évidemment, question encore plus importante, comment on fait pour éventuellement résister, sortir de cet enfermement-là? Est-ce que vous avez des pistes, Annie Lebrun?
Il n'y a pas quelqu'un qui fait en sorte que ça se passe comme ça, mais c'est le cours des choses est tel que effectivement on a de moins en moins de prise sur ce qui se passe et qu'il y a de moins en moins de personnes pour s'y opposer.
Comment on fait, individuellement, tout ce que vous décrivez, ça a quelle implication quant à l'atteinte, disons, des personnes presque anthropologiques? Est-ce que vous pouvez nous dire comment on se sent dans ce système et peut-être à partir de là, sur quel levier agir pour réagir?
J'ai l'impression que les gens se sentent, les individus se sentent perdus. Et justement, par cette invasion du langage technologique, pour rendre compte, par exemple, de la vie intérieure. Donc, du coup, les êtres sont de plus en plus démunis devant ce qui leur arrive. Et alors, ils sont prêts à accepter tous les ersatz de communication. Et en ce sens, ce que propose le Internet, avec cette sorte de lien cliquable, convient parfaitement. Et tout se passe comme si, dans le fond, il y avait toujours un produit à nous vendre pour boucher la sorte d'absence de communication. Et on pourrait dire que tout ce qui se passe sur Internet comme façon d'avoir un contact avec...
Parler des réseaux, par exemple, les réseaux sociaux, tout ça.
C'est quand même, il y a un côté d'aliénation de proximité, si on peut dire. Et aussi, tout ça repose sur un effacement du corps, c'est-à-dire un effacement de la sensibilité. Et ça, c'est très grave. En revanche, à propos des manifestations d'hier, c'est intéressant qu'on n'en ait pas... À mon avis, j'ai pas beaucoup écouté, mais les quelques commentateurs que j'ai entendus n'ont pas relevé le fait que beaucoup de gens avaient une sorte de papillon, et que c'était rêve général. Et je me suis approchée, en petit, il y avait utopiste debout, et en gros, rêve général. Et alors j'ai demandé qu'est-ce que c'est. Bon, les gens savaient pas, disons, on nous a donné. Ils avaient l'air très contents d'avoir ça. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important. Parce que c'était en discordance, en quelque sorte, avec les slogans ou les banderoles, avec ce qui était manifesté. Ce qui était manifesté était de l'ordre économique. Ils avaient toutes les raisons d'avoir ce genre de revendications et les craintes sur ce qui pouvait leur arriver. En revanche, tout s'est passé comme s'il y avait cette sorte de... On trouvait une sorte de lieu... D'où on allait prendre une distance. Et ce lieu, c'était ce rêve général. Et tout d'un coup, je pense que là, peut-être quelque chose a bougé.
Voilà. Merci beaucoup parce que vous nous permettez à la fois d'aller très loin dans l'interprétation et puis de revenir à l'actualité toute récente de cette crise en train de se dérouler. Merci Annie Lebrun d'avoir accepté notre invitation.